Bon matin, nouvelle vie Château-Quay, ça va bien?
Oui.
Et vous pouvez vous applaudir, vous êtes là ce matin. Même moi, j'hésitais à venir ce matin. Je vous souhaite une bonne année 2024. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. La joie, la paix et surtout la... L'argent. Non, la... La santé. Avez-vous reçu ces messages de bonne année, ou même c'est vous qui les avez envoyés? Bonne année, je te souhaite le meilleur pour cette année, la joie, l'amour, la santé. Vous en avez envoyé? Vous savez, on les envoie ces vœux de bonne année. Et alors que tout le monde a mangé gras durant les fêtes, a bu de l'alcool très certainement, on a tous pris 10 livres, sauf Florian. Mais il semble le 1er janvier, on devient spirituel et on écrit des messages du style « Je te souhaite le meilleur pour cette année et surtout de la paix en Jésus-Christ ». On devient spirituel, on met la paix en Jésus. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça se met bien dans un message. Je ne sais pas si vous en avez reçu des messages comme ça. Oui, la paix en Jésus-Christ. Et souvent, on souhaite des vœux, mais honnêtement, c'est assez bateau. On n'est pas très original là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes original, mais on n'est pas très original en général quand on souhaite les vœux de bonne année. Mais c'est ce qu'on doit souhaiter. On n'a pas le choix, surtout quand tu reçois bonne année. Ok, il faut que je réponde à un tel. Oui, bonne année, bonhomme sourire, ha ha ha, hop, truc prière. Vous me suivez? Est-ce que je suis le seul comme ça? Non? on ne sait pas trop quoi souhaiter. Alors que ce que veulent les gens vraiment, c'est l'argent. On le sait tous, ils veulent plus d'argent. J'ai vu un mime dernièrement qui passait et qui disait « Écoutez, l'année dernière, vous m'avez souhaité de l'argent, ça n'a pas trop marché. Donc cette année, vraiment, au lieu de me souhaiter de l'argent, envoyez-moi un chèque ou faites-moi un virement, ce sera plus efficace. » Et il faut avouer que nos vœux les uns aux autres manquent d'originalité, ils sont classiques. Et je me rappelle qu'une seule fois, j'ai été surpris par des souhaits de nouvelle année. Une seule fois, j'ai vraiment été surpris. Et vous savez par qui? Vous le connaissez. Pasteur Marc Lecomte. Le seul, l'unique, qui d'autre? On avait une chapelle d'étudiants ITF il y a 15 ans et on se réunissait. Puis à l'époque, à chaque semaine, on avait une chapelle, on passait du temps ensemble. Ça. Et Pasteur Marc, c'est le début de l'année et donc il fait la première chapelle des étudiants ITF. Et il nous dit, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Voici ce que je vous souhaite. Je souhaite que Dieu vous tue. Vous l'imaginez? Je souhaite que Dieu vous tue, littéralement. Et nous, on est là. What? Oui, je souhaite que Dieu vous tue. Ok. Quelle horreur! En fait, il parlait qu'on puisse mourir à nous-mêmes, que notre orgueil puisse mourir pour que Dieu puisse prendre toute la place dans nos vies. Mais c'est la seule fois que des souhaits m'ont vraiment surpris. Est-ce qu'il y en a qui veulent mourir ce matin? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. La nouvelle année, le temps des résolutions. Vous en avez sûrement fait, la plupart d'entre vous. Certains pas audiblement, mais dans vos têtes. Cette année, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant. Et souvent, les femmes en font plus que les hommes. Les hommes, c'est « Non, je n'ai pas fait de vœux, je n'ai pas fait l'année dernière, je ne vais pas en faire cette année. » On est très plates, les gars, en général. On n'en fait pas trop. Puis on se dit « À quoi sert que je fasse des résolutions? De toute façon, je ne vais pas les tenir. » Et souvent, c'est des résolutions de bien manger, de lire plus de livres. Moi, j'admire Pasteur Florian parce que chaque année, il lit genre 26, 35 livres. Combien de livres en 2023? Ah, mince. C'était pas prévu, en fait. Et souvent, il y a quelques résolutions comme ça, comme les résolutions de bien manger, de se mettre ou de se remettre au sport pour la 8e année d'affilée. Je fais partie de cette gang. Et d'ailleurs, vous savez que le mois de janvier est le mois où les gyms font le plus d'argent. Parce qu'ils comptent sur les résolutions des gens pour aller faire du sport. Et voici un article qui est passé, je pense, ce mercredi dans le journal de Québec. Et voici le punch. Les gyms du Québec pleins malgré l'inflation. On a de l'argent pour ce qu'on veut. Les gyms du Québec pleins malgré l'inflation. Et ils font plus d'argent vraiment à ce moment-là, sachant très bien qu'en février, il n'y aura plus personne. Alors, on va parler de résolutions ce matin. Et quand j'ai cherché le mot résolution, vous savez, quand on prêche, on cherche, on lit notre Bible, mais nous aussi, on va sur Google et on cherche résolution, Bible, etc. Et je suis tombé sur ce verset, je me suis dit, waouh, quel super verset pour commencer, Ecclésiaste 2.3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Et je me suis dit, ah non, c'est peut-être pas le bon verset pour commencer. De toute façon, ils l'ont fait le 31 décembre. Mais est-ce que je peux être vrai ce matin avec vous? Est-ce que je peux être vrai? J'haïs ce genre de prêche sur les résolutions. Je ne les aime pas. J'aime pas ces prêches parce que c'est toujours la même chose. On sait à quoi s'attendre, vrai ou pas? Ce matin, vous êtes arrivé, hein? Vous ne l'avez pas montré, vous avez fait un beau sourire. Mais j'aime pas ces prêches sur les résolutions parce que c'est toujours la même chose. Le serment de rappel d'être un bon chrétien, oui, de lire sa Bible, oui, on va prier, etc. De passer plus de temps avec Jésus. Et tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen à ça. Tout le monde est d'accord. Ceux qui sont à fond disent Amen, preach it, brother. Et ceux qui sont en galère spirituelle comme des poissons qui sont sortis de l'eau en train de... Ok, je prie un peu plus. Avec un coup d'autoflagellation un petit peu sur les résolutions. Et bien souvent, on est sincère. On veut plus de Dieu, on veut lire la parole, on veut prier, etc. Et c'est une motivation. Le problème, c'est que c'est une motivation sincère, mais ce n'est pas le fruit d'une conviction profonde, d'un changement profond. Et c'est pour ça que très souvent, la mue ne s'opère pas. Et j'aime pas ces prédications sur les résolutions parce que souvent, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. On vient, on est là. À la limite, ça a du poids juste qu'à ce qu'on soit en voiture, une fois qu'on est arrivé à la maison, on a oublié. C'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que la vérité, c'est qu'on ne tient pas les résolutions. On est mauvais, on est nul. Surtout moi. Surtout moi, je suis nul pour les résolutions. Par exemple, je décide de lire un livre. Ça y est, je m'y mets cette fois, ça y est. Comme Florian, je vais lire 26 livres cette année. Je vais chez Archambault, j'achète un livre. Je le prends et là, je commence, je l'ouvre, je passe la préface, c'est déjà 8 pages de lu. Hop, je passe l'intro, je suis déjà rendu à la 25e page, yes! Et bien sûr, je mets un marque-page pour montrer que j'ai déjà commencé le livre. Et après, je lis 20 pages et voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Je suis le seul ici? Pareil pour bien manger, je tiens 3 jours et je me dis... Ouais, mais là, j'ai besoin de comfort food. Et je sors la classique, je ne sais pas si vous la connaissez. Ouais, mais franchement, je me le mérite. Vous la connaissez, cette phrase? Elle est incroyable. Elle sert à tout. Non, je me le mérite. Franchement, je me le mérite. Enfin, j'ai travaillé fort. Pareil avec le sport. J'ai déjà donné 2 fois mon argent à Econo Fitness pour soutenir cette belle œuvre sociale qu'ils font. Et j'ai mis les pieds seulement 2 fois. La première pour m'inscrire et prendre la photo. La deuxième fois, j'y suis allé pour apaiser mon sentiment de culpabilité d'avoir payé pour rien. 2 fois, j'aurais donné mon argent. J'aime pas les prêches sur les résolutions. En plus, le prédicateur fait toujours la même blague sur les gyms qui vont en janvier et qui sont libres en février. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de blague? Toujours les mêmes choses. Mais je vais quand même parler des résolutions ce matin. Mais pas de résolution pour des gens qui ne les tiendront pas. Pas de résolutions qui ne dureront pas. Je vous ferai perdre votre temps. Et ce n'est pas vrai que vous avez bravé la tempête de neige aujourd'hui pour entendre une prêche sur des résolutions que vous ne tiendrez pas. Vous êtes d'accord? Non, vous êtes venu pour être impacté par la parole de Dieu ce matin. Et c'est mon but. Alors, je ne vous ferai pas perdre votre temps. Et le but, ce n'est pas de vous faire culpabiliser sur ce que vous ne faites pas ou pas. Et que vous vous disiez à vous-même, « Oh, mauvaise personne, pas bien, pas bien. » On est comme ça, on s'autoflagelle. Non, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, je vais parler de résolutions. Mais je veux parler de résolutions qui tiendront à coup sûr, testées et approuvées. Testées et approuvées, des résolutions qui tiendront, oui, aussi incroyables que ça puisse paraître, c'est possible. C'est possible. Maintenant, pourquoi? Parce que ces résolutions, ce ne sont pas les nôtres. Ces résolutions, ce sont celles de Dieu. Dieu a des résolutions pour toi en 2024. Dieu a pris des résolutions pour toi en 2024. Et une chose est sûre et certaine avec Dieu, c'est que Dieu les tiendra. Le titre de mon message ce matin, c'est « Des résolutions qui tiendront ». Dieu tiendra ses résolutions. Et j'aimerais vous parler des résolutions que Dieu a prises avec un homme qui débutait une nouvelle saison dans sa vie et une nouvelle saison pour le peuple d'Israël. Cet homme-là, c'est Josué. Il commençait une nouvelle saison dans sa vie aussi excitante qu'épeurante. Pourquoi? Parce qu'alors que le plus grand prophète que le peuple juif ait jamais connu est mort, Moïse, qui a libéré le peuple, qui a ouvert la mer en deux, qui a fait venir la manne, qui a donné de l'eau, bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait, mais par l'intermédiaire de Moïse. L'homme qui rencontrait Dieu face à face, Josué arrive et doit remplacer cet homme. C'est parce que, en fait, je... C'est une nouvelle saison. Un chapitre est terminé. Un nouveau chapitre s'ouvre. 2023 est terminé. 2024 s'ouvre. Et il y a un nouveau chapitre qui s'écrit. Et Dieu décide de prendre des résolutions et il s'engage envers Josué. On va lire ensemble Josué 1, versets 1 à 9. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. » Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis, par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à tout ce que la loi, à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Et ça, c'est des bonnes résolutions. Il y a des résolutions que Dieu prend avec Josué. Alors que Josué n'a rien demandé. Mais Dieu vient au-devant de Josué comme il vient au-devant de nous ce matin. Il dit, j'ai des résolutions pour toi. Et j'aimerais qu'on voit ensemble les 5 résolutions que Dieu a prises avec Josué. La première, je te donnerai tout endroit où tu poseras le pied. Eh, c'est bon ça. Je te donnerai tout endroit où tu poseras le pied. Et j'aime ça parce que, peut-être si vous m'avez entendu prêcher plusieurs fois, j'ai comme quelque chose qui revient tout le temps. J'aime l'idée que la vie chrétienne, c'est une vie d'action. C'est pas une vie de contemplation seulement. Et il dit, je te donnerai tout endroit où tu poseras le pied. Ça veut dire que Dieu a prévu des choses pour nous, il a des choses promises pour nous, que ce soit pour nos enfants, pour notre couple, pour notre carrière, pour les projets qui sont devant nous. Elles sont là, elles sont acquises. Mais Dieu nous dit, tu vas devoir y aller. Pas seulement tes lèvres qui doivent bouger pour les prières, mais tes pieds doivent se déplacer. Je te donnerai tout endroit où tu poseras le pied. Et souvent, il y a beaucoup de chrétiens que je vois qui disent, « Oh oui, nous avons la victoire en Jésus !» Mais c'est juste un statement avec la parole. La victoire en Jésus. Mais qui dit victoire, dit combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Partout où tu poseras le pied. Il y a des domaines de nos vies, il va falloir qu'on bouge. Certains, vous êtes célibataires peut-être, et vous dites, « Oh Seigneur, je prie pour mon futur mari, ma future épouse, let's go. » Et il y en a, ils sont là, je prie, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi. Mais Dieu dit, non, il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu ailles voir du monde. Il y en a peut-être, tu pries pour un travail, pour une promotion, quelque chose, mais en vrai, il va falloir se déplacer. Si tu restes chez toi, c'est rare qu'un employeur dise, bon, quoi que de ce temps-ci, c'est encore grave. Mais il faut que tu te déplaces. Est-ce que vous me suivez? Il y a des promesses de Dieu pour nous, il y a des promesses de Dieu pour nous en 2024, mais il va falloir qu'on se déplace, il va falloir qu'on bouge nos pieds, il va falloir qu'on passe à l'action. C'est acquis. Dieu a acquis des choses. Et même pour des prières, même pour nos enfants. Il y a des fois, on a des enfants qui sont éloignés de Dieu, nos familles qui sont éloignées de Dieu. Il va falloir qu'on vienne et qu'on rentre dans la prière pour se battre pour eux, pour avoir la victoire. Je te donnerai tout endroit où tu poseras le pied. C'est fort, c'est puissant. Je crois qu'il y a des territoires que Dieu veut nous donner, que nous n'allons tout simplement pas chercher. Et on reste là, assis sur nos chaises, et on est... Et je ne sais pas pourquoi, des fois, les chrétiens, on aime se lamenter. « Oh, Seigneur, tu vois ce que je vis, tu vois, c'est difficile. » Et Dieu nous dit, « Bouge. Si tu veux rentrer dans les promesses que j'ai pour toi, il va falloir que tu bouges, que tu mettes ton pied dans les endroits où tu n'es pas habitué. Je ne peux pas te donner les endroits où tu n'es pas allé. » Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Deuxième chose, personne ne pourra te résister. Maintenant, je veux faire un petit bémol là-dessus. Je pense que c'est « personne ne pourra te résister ». Je ne pense pas que c'est « personne ne pourra te résister ». Vous me suivez? Je veux juste être clair là-dessus au cas où. J'espère que si Dieu te dit ça, c'est pour ton épouse, pour ton mari, ok? D'accord? C'est ça l'essentiel. Personne ne pourra te résister. Je ne pense pas que c'est une question de drague. Je pense que c'est une question qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Personne ne pourra te résister. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne ne pourra te résister. C'est fort, ça. C'est fort. Personne ne pourra te résister. Il n'y a aucune situation qui pourra te résister. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la résistance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du combat. Mais qu'ultimement, à la fin, la victoire est à toi. Amen. Troisième chose, je serai avec toi. Troisième résolution de Dieu pour Josué, elle est pour nous. Je serai avec toi. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous tous les jours. Dans les bons, dans les mauvais moments, il est là. Tout le temps, il est là. Il voit quand on fait les bonnes choses, quand on fait les mauvaises choses. Et le but, ce n'est pas de dire Dieu est là, de dire « je te watch ». Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu est présent avec nous. Et Jésus nous a fait cette promesse, « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et cette promesse tient toujours, « je suis là, je suis avec toi ». Je suis avec toi. Je serai avec toi. Quelle grâce, quel soulagement de savoir que Dieu sera avec moi. Peu importe les vallées, les montagnes qu'on va traverser cette année, Dieu sera avec nous. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Ça fait du bien de savoir ça. Je ne suis pas seul. Mon Dieu est là, mon Père est là, mon Sauveur est là. Je serai avec toi. Quatrième chose, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il y en a qui vont dire, ben, c'est la même chose que je serai avec toi. Non, non, non. Il y en a qui sont avec toi, mais quand tu es dans la galère, ils te regardent. Ils sont là, ils font, puis ça va? Tu hein? Je suis là. Non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire que si tu vis des choses difficiles, si tu es dans une galère, tu es dans un puits, tu es dans la fosse, je te tends la main et je te retire de la fosse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu fait cette promesse à Moïse. Il est avec nous. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Il nous donnera les solutions pour nous en sortir. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je me rappelle d'un poème que je n'ai pas en tête, que je n'ai pas par cœur, mais je me rappelle, c'est ma mère qui avait lu ça quand elle s'était faite baptiser, il y a très 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 longtemps. Je me rappelle, j'avais 10 ans, mais ça m'avait marqué. Et sûrement, vous le connaissez, vous l'avez entendu parler. C'est l'histoire d'un homme qui parle, ou peut-être une femme, peu importe, et qui est sur la plage, et qui marche sur la plage, et qui a des traces de pas sur le sable. Est-ce que vous connaissez? Exactement. Et des traces de pas sur le sable, puis ça représente les jours de la vie de la personne. Et la personne finit par parler à Dieu et de dire « Pourquoi je vois deux traces de pas tout le long de ma vie, mais dans les moments les plus difficiles de ma vie que j'ai traversé les épreuves, il n'y a qu'une seule trace de pas. Où étais-tu, Seigneur ?» Et Dieu qui répond « Mais les jours où tu ne vois qu'une seule trace de pas, ce sont les jours où je t'ai porté. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tu n'es pas seul. Je serai avec toi. Je te tendrai la main. Je te porterai. Je te soutiendrai. Amen. Dieu a cette résolution avec nous. Cinquièmement, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est fort. Je crois que Dieu veut nous donner du succès en 2024. Dieu veut te donner du succès dans ton couple, dans ta famille, dans ta carrière, dans ta business, dans tes relations, dans ta vie de prière. Dieu veut te donner du succès. Dans tout ce que tu entreprendras. Pas dans quelques affaires, dans tout ce que tu entreprendras. Et il y a quelques temps, j'étais venu faire un message ici sur comment réussir tes projets. Je vous invite à le réécouter, je ne ferai pas une prêche là-dessus, on pourrait faire juste une prêche là-dessus. Moi, c'est le sujet qui me passionne, de savoir que Dieu veut notre réussite et qu'il est là pour nous. Et qu'il l'a déclaré. Dieu a plein de choses en réserve pour nous. Dieu veut te donner le meilleur pour 2024. Voici les cinq résolutions de Dieu pour Josué. Et c'est les mêmes pour nous. C'est les mêmes pour nous aujourd'hui en 2024. Et je ne sais pas si vous savez, mais Dieu est fort en marketing. Dieu est fort en marketing. Est-ce que vous connaissez les 2 pour 1? Pizza 2 pour 1? Dieu est encore plus fort. Dieu a inventé le 5 pour 1. Le 5 pour 1, c'est incroyable. Quel deal incroyable! Quel deal incroyable! Il s'engage à tenir 5 résolutions si on s'engage à en tenir une. 5 pour 1. Qui trouve que c'est pas pire? Ça débute bien l'année. 5 pour 1. Un 5 pour 1 avec Dieu. 5 résolutions incroyables de Dieu. Pour une seule de notre part. Une seule résolution à tenir. Une seule. La seule demande de Dieu, c'est en 2024, lis ta Bible. Lis ta Bible. C'est la seule résolution que Dieu te demande. Josué 1, versets 7 et 8. Simplement, Josué, prends courage et tiens bon pour veiller et obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Cette résolution a le pouvoir de transformer ta vie. Cette résolution a littéralement le pouvoir de transformer ta vie. Si tu plonges tes regards dans sa parole, si tu plonges tes regards dans ta Bible, que tu continues, que tu persévères, ta vie a la possibilité d'être complètement transformée. Et que ceux qui le savent et qui le vivent disent « Amen ». Je le sais, certains d'entre vous le savent, et il y en a un autre qui le sait. Il y en a un autre qui le sait que cette résolution peut bouleverser ta vie, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes. Il y a une pub très bien faite. Je ne sais pas s'il y en a, vous avez sur votre téléphone la Bible App pour lire la Bible. Il y a une pub très bien faite pour l'application Bible App dans le métro que j'ai vu. Avec un commentaire utilisateur à 0 étoile. 0 étoile, qui dit « Je ne recommande vraiment pas. » Signé Satan. Parce qu'il sait que ça peut transformer ta vie. Il sait que ça peut transformer ta vie. Satan ne veut pas que tu lises la parole, car il sait que si tu le fais, ta vie sera complètement transformée. Des fois, la vie chrétienne, c'est comme le gym. Tout le monde veut être en forme, mais personne ne veut aller à la salle. Tout le monde veut avoir une vie impactée par Dieu, mais personne ne veut plonger ses regards dans sa parole. Le problème, c'est que la prière de beaucoup, c'est « Seigneur, change-moi, transforme-moi. Oui, tu es saint, on a chanté. » D'ailleurs, c'était excellent, j'ai passé un moment dans la louange. Est-ce que je suis le seul? C'est vraiment bon d'être dans la louange ce matin. « Transforme-moi. » Et on est sincère, et Dieu est comme « C'est parfait, j'ai tout préparé. On va faire des choses incroyables ensemble, des choses extraordinaires cette année, mais rien ne change car tu ne vas pas dans la parole. » C'est comme tu disais, « Oh, j'ai besoin de changement. Que mon corps se transforme. Là, ça y est, je vais m'y mettre, tout ça. On va enlever les petits gras ici. On va tracer les muscles. Incroyable. Et je te dis, super, je t'offre un abonnement au gym annuel. Gratuit, je te le donne. Tu peux venir 24 heures sur 24. J'ai toutes les machines pour toi. On va travailler tous les aspects de ton corps. J'ai des tutos sur tout pour travailler tout. J'ai même un coach. Il s'appelle le Saint-Esprit. La vérité, c'est que si tu ne vas pas, rien ne changera. Maintenant, j'imagine certains me dire, écoute, j'aime ce que tu dis, Stéphane, mais si je suis honnête avec toi un instant, ce qui arrive dans ma vie, c'est que je la lis tous les jours, mais je ne vois pas trop la différence. Ça aide, c'est vrai. C'est agréable, c'est la parole de Dieu, j'aime ça, mais ça ne change pas tant grand-chose dans ma vie. Est-ce qu'il y en a qui se sentent comme ça, des fois? Tu lis la parole, puis tu dis, mais est-ce que ça fait une différence, vraiment? Est-ce que ça fait une différence? Moi, je me suis posé cette question des fois. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Et tu n'es pas sûr. C'est bien, mais ce n'est pas non plus incroyable. Ok, attends. Je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il te manque peut-être un détail qui a toute son importance. Un détail qui a toute son importance. Faisons une deuxième lecture du passage. Verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et... Ah ! C'est ça. C'est ça, je me disais aussi. Et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès. On est bon souvent pour lire, mais on fait juste lire. La parole de Dieu ne nous transforme pas parce que nous ne l'appliquons pas. C'est souvent là où le bât blesse. C'est souvent là où on a des difficultés. Et moi, le premier, pour être honnête avec vous. Certains, vous lisez la parole, mais vous ne l'appliquez pas. C'est comme certains qui ont leur abonnement mensuel à la salle, au gym. Oh, ils y vont, ils punchent leur carte, mais ils prennent juste des photos. à la salle. Hashtag remise en forme. Hashtag 2024. Vous n'êtes pas prêts. OK. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Certains lisent, font même des stories sur Instagram avec un café à côté. Vous les connaissez, ces photos? Avec un café à côté, avec écrit « Oh, qu'il est bon d'être dans sa parole ». Et c'est super, gloire à Dieu pour des stories comme ça. Il n'y a aucun souci, vraiment. C'est mignon, c'est cute, mais si tu ne l'appliques pas à ta vie, ça ne changera rien. Ça ne changera pas grand-chose. Ta transformation sera incomplète. Si je pouvais donner une illustration qui a ses limites, je comparerais la parole de Dieu à une arme. D'ailleurs, la parole de Dieu dans la parole, c'est l'épée de l'esprit dans l'armure du croyant. Vous le savez ? L'épée de l'esprit. Si vous voulez que les jeunes embarquent là-dedans, les enfants, dites-leur que c'est un sabre laser, ils vont triper. OK ? Mais la Bible est une arme, c'est comme un pistolet. Les chrétiens la portent, mais elle est vide. Ils ont une arme, mais elle est vide. Quand tu la lis, c'est comme si tu chargeais le chargeur. Et c'est super. Mais le point d'une arme, son plein potentiel, est atteint quand tu tires. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est quand tu l'appliques qu'elle devient efficace, qu'elle libère toute sa puissance. J'aime cette citation qui dit « La vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. » Sois armé. Il y en a un qui lésine pas sur les moyens. Et lui, il est prêt à t'abattre. Et nous, on est là tranquillement avec une arme ici. On la porte, elle est là, mais elle est vide. Elle est absolument vide. Comprenez-moi bien, je suis pas pro-arme, etc. C'est juste pour une illustration. Vraiment. Et l'affaire, c'est que souvent, c'est juste de l'information. Je connais certaines personnes qui connaissent 200 versets par cœur. Et c'est cool, c'est super, vraiment, c'est bon à savoir, c'est vraiment utile dans les temps de prière. Mais c'est juste de l'information qui est devenue une connaissance. C'est juste de l'information qui est devenue une connaissance. Une bonne connaissance, soit dit en passant. Mais Dieu t'appelle à plus que de la connaissance. Dieu t'appelle à acquérir la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est ce qui arrive lorsque l'information est mise en action. Tu veux plus que la connaissance pour toi. Tu veux la sagesse pour toi, pour ta vie. C'est comme l'information sur l'épargne et investissement. Il y en a, vous savez quoi faire. Vous avez l'information. Mais si vous ne le faites pas, ça ne changera rien en vos REER. Vous me suivez? Ça ne changera rien. Vous avez l'info. Mais la puissance de l'investissement, c'est quand c'est mis en application. Pareil pour les relations conjugales. Avez-vous remarqué comment on est bon pour conseiller les autres sur leurs relations conjugales? On leur dit de faire des choses que nous-mêmes, on ne fait pas dans nos vies? Ah, y a juste moi qui fais ça. Mais on l'a, l'information. L'information, on l'a. La connaissance, on l'a. La vraie puissance de la connaissance, c'est quand, lorsqu'elle est mise en application. La vraie puissance de la parole de Dieu, c'est pas de dire j'ai un beau livre, c'est quand elle est appliquée, c'est là qu'elle a tout un poids, c'est là qu'elle est puissante, c'est lorsqu'elle est mise en application. Et l'ennemi, nos âmes, n'est pas impressionné quand on la lit. Tu la lis? Super. Reste comme ça, fais juste la lire. Non, mets-la en application. Dieu t'appelle à acquérir ça, vraiment. L'information, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux. Jacques 1, verset 22-25. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Pour être tout à fait honnête, ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait 20 ans que je suis passé par les eaux du baptême et que j'ai décidé de suivre Jésus. Et j'ai remarqué que des années à lire la parole de Dieu et à l'appliquer ne changeaient pas grand-chose à ma vie. Ouais, est-ce que tu t'en vas? Non, j'ai remarqué que ça ne changeait pas. Honnêtement, je ne voyais pas trop de différence. Jusqu'à un certain moment. Savez-vous lorsque j'ai vu une différence? Lorsque j'ai arrêté de la lire et de l'appliquer. J'ai vu la différence lorsque j'ai arrêté de la lire et de l'appliquer. Pourquoi? Parce que j'étais plus frustré, j'étais moins joyeux, j'étais moins dans... Vous me suivez? Quand on est habitué à la lire et à la mettre en pratique, c'est comme si on est dans un mode de fonctionnement, on est dans un lifestyle. On suit Jésus, ça fait partie de qui on est. Et on n'a pas l'impression de voir un changement parce qu'en fait, on est déjà dans la puissance de la parole de Dieu. Mais c'est lorsqu'on se met, on s'arrête et qu'on arrête de la lire que Oh, ça me manque. Il y a quelque chose qui manque à ma vie. Continue de lire la parole, plonge tes regards dedans, applique-la. Parce que la parole de Dieu est source de vie. Moi, elle m'encourage, elle me renouvelle, elle me soutient, elle me reprend, elle me dirige, elle me console, elle me réconforte, elle me confronte, elle me relève, elle me libère, elle fait que je persévère, elle me fait du bien, elle me remplit de vie et surtout, elle me rapproche de ce grand Dieu d'amour. Amen. La parole de Dieu me fait du bien. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la lire, j'ai besoin de la mettre en pratique. Mais en terminant ce matin, j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques pour lire votre Bible. Qui est in pour ça? Des conseils pratiques pour lire la parole de Dieu. On prend souvent pour acquis en tant que pasteur que vous lisez la parole de Dieu, que nous-mêmes on la lit. D'ailleurs, vous prenez pour acquis qu'on la lit tous les jours. Il ne faut pas leur dire. Mais j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques. Des conseils que j'ai reçus de mon pasteur jeunesse il y a 15 ans, un certain David Potier. David, si tu nous écoutes. Et je crois que les bons conseils demeurent de bons conseils. Mon but ce matin n'est pas seulement de vous convaincre, n'est pas de vous pomper, de vous hyper. Parce que je sais très bien que la hype sera terminée à 2h27, quand vous serez sur le sofa en train de dormir. Je le sais trop bien. Mon but ce matin, c'est de vous équiper. C'est de vous équiper parce que le vrai combat commence demain. Alors ce matin, 5 conseils pratiques pour lire sa Bible. Premièrement, choisis une traduction. Choisis la bonne traduction. Il y a plusieurs traductions de Bible. Souvent on dit version, mais version, ça porte à confusion. On peut croire que c'est différent. Non, c'est juste la traduction. Il y a des traductions différentes. Par exemple, il y a la seconde 21. Il y a la seconde, il y a quoi d'autre? La Semeur, la Darby, Vous me suivez? Un exemple, parce qu'il y en a, tu lis la Bible et tu as l'impression de rien comprendre. Peut-être que tu as la mauvaise traduction, la vieille seconde qu'on connaît bien. Ok? Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est beau, hein? Maintenant, si je prends la traduction en parole de vie, très joli. D'ailleurs, il y a plusieurs Bibles qui existent. Peut-être changer de Bible pour des fois changer comment vous lisez la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révolté contre lui. Est-ce que c'est plus simple? La traduction change tout. Souvent, ça peut être aride quand on lit quelque chose et on dit « Ah oui, mais il faut que ce soit mystérieux pour que ce soit biblique. » Non. Choisis une bonne traduction avec laquelle tu es à l'aise. Regarde, vérifie. Il y a moi, j'ai la Semeur personnellement, mais voilà, chacun son style. Il y a la seconde 21. Choisis une traduction qui te convient. Deuxième chose, choisis le moment. Choisis le bon moment de ta journée. Peut-être qu'il y en a, ils sont du matin, il y en a, ils sont du soir. Avant, moi, j'avais le poids de dire oui, il faut que à 5 heures du matin, tu te lèves et que tu cherches la phase. Ouais, ça ne marchait pas. Moi, j'étais réveillé le soir et je le faisais le soir. Quel est le meilleur moment pour toi? Peut-être que tu as des enfants, mais peut-être le meilleur moment, effectivement, c'est peut-être que tu te lèves à 5 heures du matin pour lire la parole. Quel est le meilleur moment pour toi? Trouve le bon moment, mets-le dans ton agenda. On a du temps pour ce qu'on veut, mais si dans notre agenda, on n'est pas intentionnel, on ne le fera pas. Ce n'est plus le cas maintenant, aujourd'hui, il y a Netflix, tout ça, on regarde ce qu'on veut quand on veut, mais à l'époque, quand il y avait notre émission qui était à 19h, oh, il ne fallait pas la rater. Il y a l'émission, elle est à 7h. Non, faisons la même chose avec Dieu. Mettons-le en priorité dans nos vies. Mettons un temps, trouve le temps. Quel est le meilleur temps pour toi? Troisième chose, choisis un endroit. Quel est le meilleur endroit pour toi pour le faire? Peut-être qu'en plein salon, quand les enfants en passent et tout, ce n'est pas le meilleur endroit. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on a des enfants, en 2024, le meilleur endroit, c'est les toilettes. Mais ce n'est pas très... Vous me suivez? Peut-être c'est ta chambre. Je connaissais quelqu'un, lui, l'endroit, c'était son placard. Il allait dans le placard, littéralement, pour être caché. Il y en a, s'il faut le meilleur endroit pour toi, c'est ta voiture. Dans la voiture, allume, passe un 15 minutes, lis la parole, juste pour être au calme. Allume le chauffage de sens-ci, risque de faire froid. Choisis un endroit. Quatrièmement, choisis un plan et un plan de lecture. Ça va être plus simple parce que si tu fais la classique, alors Seigneur, parle-moi, oui. Oh, Saint-Esprit, dirige mes doigts et ma main. Et Judas, elle a se pendre. Ok, on va changer. Seigneur, parle-moi, repens-toi. Oh, Ça peut marcher une fois, mais ayons quelque chose qui tient la route. Et il y a plusieurs plans. Tu as différents plans de lecture. Il y en a, tu veux commencer la lecture de la parole de Dieu, et tu fais ça, et tu veux lire toute la Bible en un an, alors que tu la lis à peine. C'est comme si je voulais faire un marathon dans 2 semaines, ça ne marchera pas. Il y a différents plans où tu peux lire un chapitre par jour. Il y en a, c'est quelques versets. Avec Bible App, il y a plein de plans que tu peux avoir. Tu peux en trouver sur Internet, plans. Le meilleur plan que moi j'ai eu, parce que je me connaissais, c'était un plan s'appelait 5x5. C'était 5 chapitres par semaine. Ce qui faisait que je pouvais la lire 5 fois dans la semaine. J'avais le droit à tricher 2 fois dans la semaine. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que quand on a un plan à tous les jours, des fois, ce qui arrive, quand on rate une journée, on est découragé, on s'en veut et on arrête. Trouve le bon plan pour toi. Trouve un plan. Et enfin, dernièrement, 5e chose, choisis un partenaire. Choisis un partenaire. Peut-être avec qui tu vas toutes les semaines discuter de ce que tu as lu. Et j'ai fait exprès de les mettre tous sur le même slide pour qu'il y en a qui puissent prendre des photos. Vous avez le droit. Je sais qu'on a dit fermez vos téléphones, mais prends-le en photo. Trouve quelqu'un de dire « Hey, j'aimerais ça, Florian, j'aimerais ça lire la Bible cette année. » Qu'est-ce que tu penses qu'on lise Éphésiens cette semaine? Vous me suivez? Il y en a, ils lisent en un jour, peu importe. Trouve un plan, trouve quelqu'un avec qui le faire. Ça va être plus simple. Moi, je l'ai fait. Et il y a des moments, je ne le faisais pas. Mais vu que je savais qu'on allait se rencontrer chaque semaine, je lisais mes 5 chapitres d'un coup. Est-ce qu'on peut être vrai? Il y a plein de petites choses comme ça. Lis la parole de Dieu. La parole de Dieu, quelle que soit ta saison, dans les bons moments, dans les mauvais moments, si tu lis la parole de Dieu, tu seras toujours dans des bonnes conditions avec Dieu. Parce que Dieu a toujours une parole pour nous. Je vais appeler les musiciens à revenir alors que je termine. On va terminer dans quelques instants. Quelques autres conseils comme ça en rafale. Avant de débuter la lecture, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Prends un temps de prière. Parce que souvent, on lit comme ça. Puis ça vous arrive de lire, vous lisez un chapitre et vous dites, qu'est-ce que je viens de lire ? On l'a juste lu mécaniquement. Et juste de s'arrêter, de dire, moi, c'est le genre de prière que je fais. C'est tout simple, ça ne dure pas longtemps. C'est Saint-Esprit, je te prie que tu puisses me parler par ta parole ce matin. Viens me révéler des choses, viens me montrer, fais ressortir des choses de la parole. Et que tu puisses venir me parler, me confronter et m'encourager, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. Ça ne dure pas longtemps, c'est juste que ça ramène mon focus. Autre conseil, avoir une attitude de soumission face à la Bible. De dire, Seigneur, parle-moi, peu importe ce que tu me dis, je vais écouter. Pas je choisis ce que je prends. Personnaliser sa Bible. Personnaliser-la. Moi, il pouvait mettre des... Il y a du stabilo, du rose, du orange, du vert, du... Peu importe. Vous voyez, elle est utilisée, celle-là, c'est la mienne, c'est j'ai amené ma personnelle. J'ai mis du duct tape, et même le duct tape, il n'y a pas suffi, il va falloir que je re-duct tape. Personnalisez-la. Faites-en quelque chose d'important dans votre vie. Lisez même si vous n'avez pas le goût. Des fois, ça ne me tente pas. Des fois, ça ne me tente pas, honnêtement. Lisez pareil. Lisez-la pour créer cette habitude-là. Lisez-la. Lisez votre Bible même si vous n'avez pas le goût. Ne vous arrêtez pas sur les passages que vous ne comprenez pas. Continuez. Éventuellement, vous allez voir quand vous allez lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois la parole de Dieu, poum, à la 10e fois, il y a quelque chose qui va faire « Ah, je comprends maintenant. » Ne vous arrêtez pas sur les passages que vous ne comprenez pas. Quand on saute une journée, ne culpabilisez pas. Continuez. Ne faites pas comme moi qui voulais lire Matthieu et qui à chaque fois sautait un jour et je revenais au début. Et à chaque fois, je refaisais la généalogie, c'était horrible. Quand vous sautez un jour, ne culpabilisez pas. Il y a la place pour ça. Vous savez, c'est comme un régime. Ce n'est pas de prendre un chocolat qui va changer la game. C'est sur le long terme. Si votre plan ne fonctionne pas, changez de plan. Mais une chose est sûre, si en 2024, tu décides de mettre tes regards dans la parole de Dieu, si tu décides de la lire, de l'appliquer, ta vie sera transformée. Et les résolutions de Dieu pour toi seront certaines. Elles seront certaines. Dieu a des plans pour nous. Dieu a des résolutions en masse pour toi cette année. Il va les tenir parce que c'est un Dieu bon et fidèle. Comment croire que Dieu est bon et fidèle? Dieu est bon et fidèle. Mais il te dit, je te demande une seule chose, lis ma parole. Lis ma parole et mets-la en pratique, car c'est une vie en abondance que je désire t'offrir. Alors ce matin, en ce début d'année, est-ce qu'on pourrait se lever? ce matin et juste répondre à Dieu qui nous dit, je te demande une seule chose, lis ma parole. Lis ma parole, elle est pleine de trésors pour toi et pour ta vie. Est-ce qu'on pourrait répondre à Dieu ce matin? Est-ce qu'on pourrait s'offrir à lui? Et peut-être se reconsacrer à nouveau, de dire, Seigneur, je m'offre à toi. Prends ma vie, fais ce que tu veux de ma vie. Me voici, Seigneur. Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent, moi, je veux répondre à ça et dire, merci, Seigneur, pour tes résolutions. Merci parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Je veux répondre à cette seule résolution que tu me demandes. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent dire, oui, moi, je veux répondre à ça? Alors ce matin, qu'on puisse élever le nom du Seigneur, qu'on puisse s'offrir, qu'on puisse se consacrer, se reconsacrer à Dieu. Et dire, Seigneur, me voici, je ne suis pas parfait, Seigneur, je veux tellement plus de toi. Et même si j'arrête et que je ne lis pas ta Bible là tous les jours, Seigneur, je veux m'engager, je veux le faire parce que je sais que c'est bon pour moi. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la persévérance. Parce que je sais que ta parole est une source de vie. Et je veux m'y abreuver à tous les jours. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait chanter ce matin? Est-ce qu'on...